Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Dans votre émission ce soir, nous parlerons des accusations et d'exactions contre des civils attribués aux agents de sécurité russes en Centrafrique. Mais avant, direction Jérusalem pour parler de cette crise dans le Proche-Orient.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Docteur Pierre Berthelot, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes spécialiste du Proche-Orient à l'IFSE, c'est l'Institut de prospective de sécurité en Europe. Les violences déclenchées à Jérusalem sous fond de report d'une décision de justice israélienne sur le sort de familles palestiniennes menacées d'éviction par des Israéliens à Jérusalem-Est ne faiblissent pas. La portée des tensions laisse penser que cette affaire judiciaire n'est que l'élément déclencheur d'une situation qui était déjà explosive.
Oui, tout à fait. C'est un peu comme vous dites, l'étincelle qui déclenche le feu ou la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En réalité, l'expropriation des familles palestiniennes à Jérusalem-Est a commencé il y a déjà plus de 50 ans et elle s'est accentuée depuis qu'il y a la droitisation, on pourrait dire, israélienne, c'est-à-dire depuis l'accession il y a à peu près une vingtaine d'années, de la droite de façon presque discontinue et sans partage.
Incarné par Benjamin Netanyahu.
Voilà, et son prédécesseur Ariel Sharon. Alors qu'avant, il y avait soit le Parti travailliste, soit il y avait des gouvernements d'alternance. Voilà, donc c'était un peu plus modéré, si on peut dire. Donc il y a eu une accentuation, et en réalité, donc ces familles contestent juridiquement le fait qu'elles puissent être expropriées, elles considèrent qu'il y a des bases légales qui sont douteuses. Et de toute façon, les recours, même quand ils sont mis en place, et que parfois la Cour suprême, ce qui est rare, peut aller dans le sens des Palestiniens, il n'est pas dit que les décisions soient exécutées. Ça, c'est encore un autre problème.
Est-ce que le vrai fond de la crise qu'on observe aujourd'hui à Jérusalem n'est pas la dispute autour de cette ville sainte que les Israéliens présentent comme leur capitale, ce que rejettent les Palestiniens ?
Mais exactement. Dans le conflit israélo-palestinien, il y a le conflit dans le conflit. C'est-à-dire qu'il y a la question des territoires, c'est une chose, et à l'intérieur de ces territoires, selon le droit international occupé illégalement, il y a la question sensible, effectivement, de Jérusalem et de Jérusalem-Est. Donc, les Israéliens disent « c'est notre capitale, et on nous refuse cette capitale ». Les Palestiniens, et même la plupart des pays arabes, ne disent pas qu'ils ne veulent pas que Jérusalem soit la capitale d'Israël. Ils disent qu'ils ne veulent pas qu'elle soit une capitale sur l'ensemble de la ville. Ils veulent que, par exemple, si c'est Jérusalem, c'est la partie ouest, et que la partie est, elle, soit la capitale d'un futur État palestinien. Et effectivement, comme vous l'avez rappelé, c'est une religion, c'est une ville trois fois sainte qui est unique au monde et elle a une importance particulière pour les trois grandes religions révélées monothéistes. Et c'est pour ça d'ailleurs que certains ont proposé qu'elle soit une ville avec un statut international, ce qui était déjà un projet dans le plan de partage de l'ONU de 1947, où elle devait avoir un statut particulier.
À la veille de l'audience sur l'expulsion des familles palestiniennes, finalement, la justice israélienne a décidé de repousser celle-ci. Est-ce que la tension en cours va peser dans la décision à venir de la justice israélienne sur cette question ?
Oui, c'est effectivement, on voit bien qu'il y a un lien entre les deux. Il s'agit de calmer le jeu, mais on peut craindre qu'une fois que la tension diminue, eh bien, on profitera d'une période d'accalmie peut-être pour organiser cette décision judiciaire, en tout cas pour.
Qui était déjà favorable aux familles juives qui revendiquent la propriété du terrain.
Tout à fait. Donc, je pense qu'il n'y a, à mon sens, pas grand-chose à attendre de la Cour suprême. Et même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle allait peut-être dans un sens plus favorable, de toute façon, après, il faut encore que ces décisions soient exécutées. C'est un autre problème.
Des tirs de roquettes de la bande de Gaza ont ciblé le territoire israélien, qui a aussitôt répliqué par des bombardements de l'enclave palestinienne. Au moins 20 personnes, dont 9 enfants, ont été tuées. Sommes-nous déjà dans un début de conflit qui pourrait être comparable à ceux de 2008 ou peut-être 2014 ?
Oui, c'est possible qu'effectivement il y ait une situation qui s'envenime et qu'on, comme vous l'avez rappelé, qu'on aboutisse à une situation de tension extrême. Mais de toute façon, aujourd'hui, les moyens sont tellement disproportionnés en faveur d'Israël que ces combats ne peuvent pas durer éternellement. Ils peuvent durer quelques jours, quelques semaines.
Mais le Premier ministre israélien a déclaré que cette période de tension risque bien de durer.
Oui, durer, mais je ne suis pas convaincu qu'elle dure non plus des mois et des mois, parce qu'à un moment donné, il y aura un épuisement des forces palestiniennes. Donc peut-être qu'il y aura dans la durée des combats sporadiques, ça c'est certain. Maintenant, des combats de haute intensité, encore une fois, je pense que les différents mouvements palestiniens, activistes, n'ont pas la capacité de les mener dans la durée sur des mois.
Européens et Américains expriment leur inquiétude, les Nations Unies aussi, mais qui peut aider aujourd'hui à apaiser le climat à Jérusalem ?
Comme d'habitude, le seul acteur qui est capable de faire pression sur Israël, c'est les États-Unis. Il suffit que les États-Unis, au Conseil de sécurité, notamment de l'ONU, n'appuient pas de façon aussi inconditionnelle Israël, et à ce moment-là, les Israéliens vont faire des pressions. C'est ce qui s'est passé il y a 30 ans.
Docteur Pierre Bertolo, merci beaucoup.
Je vous remercie.
Spécialiste également du Proche-Orient à l'IFSE, l'Institut de prospective sécurité en Europe, ici à Paris.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
18h14 à Paris, bienvenue dans ce numéro du Grand Rendez-vous. Et ce soir, nous parlons des accusations d'exactions contre des civils attribuées aux agents de sécurité russes en Centrafrique dans une enquête d'une radio française. Est-ce que ces accusations sont fondées? Le gouvernement centrafricain a en tout cas annoncé qu'une enquête sera ouverte sur ces allégations. A-t-il la marge de manœuvre nécessaire pour mener cette enquête? Et nous allons en parler ce soir avec trois invités. D'abord, Roger Andia Landi, membre du bureau politique du MCI. C'est le mouvement Cœur Uni du président Faustin Archange Touadéra. Vous êtes délégué Zone Europe, monsieur Andia Landi. Bonsoir.
Bonsoir, madame. Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Et en ligne de Bangui, Gervais Lakosso, coordonnateur du groupe de travail de la société civile en Centrafrique. Monsieur Lakosso, bonsoir. Monsieur Lakosso,
bonsoir
qui est...
Bonsoir à vous et bonsoir à tous les autres co-débatteurs.
Merci à vous, monsieur Lakosso, d'être avec nous. Et nous sommes également en compagnie de Mikhaël Gamandi-Egorov, analyste politique russe à l'agence de presse Observateur Continental. Monsieur Egorov, bonsoir.
Bonsoir madame, merci pour l'invitation.
Merci d'être avec nous et nous tenons à souligner que nous avons essayé de joindre un membre de l'opposition, en l'occurrence Anissé Georges Dologuele ou encore Nicolas Tchangaï, tous deux membres du Code 2020, coalition de l'opposition, n'ont pas souhaité participer. Pour Anissé Georges Dologuele, il a dit ne pas souhaiter en parler. Selon lui, ce sujet est sensible à son niveau, alors que Nicolas Tchangaï a souligné qu'il souhaite attendre les conclusions de l'enquête annoncée par le gouvernement centrafricain sur ces allégations donc contre les agents russes en Centrafrique. Je vais commencer avec vous, monsieur Andia Landi. L'enquête de la radio France Internationale parlait de multiples violations attribuées donc aux instructeurs russes, selon l'ambassadeur. D'autres parlent plutôt d'agents des sociétés de sécurité privées russes. Déjà, comment les distingue-t-on ?
Non, mais justement, de manière générale, les gens font une confusion. Nous n'avons pas de... Bon. En Centrafrique, il y a pas d'agent à tant et tel de Wagner. Hein, il y a une coopération entre le pays et la Fédération de Russie. Donc nous avons des instructeurs russes dans le pays. Maintenant, aller chercher à savoir que ce sont des mercenaires, je ne sais de
Et ceux qui appartiennent aux trois sociétés de sécurité mentionnées par l'enquête, comment les appelle-t-on ?
Non, on parle des sociétés de sécurité, mais en fin de compte, ce ne sont pas des gens qui appartiennent à des sociétés de sécurité. Ce sont des instructeurs russes.
Merci. Voilà. Monsieur Lakosso, vous aussi, vous arrivez à faire la différence entre instructeurs et agent de sécurité privé russe.
En réalité, il y a des instructeurs russes qui sont venus officiellement au pays dans le cadre, certains même de la MINUSCA, qui sont là, mais il y a aussi des éléments russes qui combattent sur le terrain aux côtés des forces armées centrafricaines qui ne sont pas des instructeurs. Je ne sais pas s'il faut les appeler mercenaires ou quoi que ce soit, mais en tout cas, on suce des instructeurs russes. Il y a d'autres éléments russes qui sont des fantassins qui sont sur le terrain, qui se battent.
On dirait qu'ils travaillent dans l'informel.
L'armée, ça se passe bien.
Qui sont un peu, qui travaillent de façon informelle.
Je n'ai pas assez de fonds pour l'apprécier, mais d'abord avec le gouvernement. Donc pour nous ici en Centrafrique, c'est officiel. Mais il y a des informations qui disent qu'ils n'appartiennent pas à l'armée russe, qu'ils appartiendraient au groupe Wagner, qui est plutôt privé. Mais en tout cas en Centrafrique, ils interviennent de manière régulière, de manière officielle, puisqu'ils travaillent avec les forces armées centrafricaines et sous la supervision du gouvernement centrafricain.
Et qu'en est-il de la coopération avec la MINUSCA? Est-ce que vous voyez ces éléments, tantôt appelés mercenaires, tantôt instructeurs, en tout cas pour ce qui est de la version de Moscou, est-ce que ces forces travaillent aussi avec les casques bleus de la MINUSCA? Est-ce que vous les voyez?
Oui, à un moment, les casques bleus ont bien collaboré avec eux, mais ils se sont rétractés quand des voix ont commencé à les critiquer pour dire que voilà, les casques bleus qui collaborent avec des mercenaires non régulières, mais les casques bleus ont collaboré avec eux parce que lorsque les opérations militaires ont été lancées contre les groupes armés, les forces armées sont appuyées par ces Russes, ben les MINUSCA, les casques bleus qui étaient là et qui ne faisaient rien, étaient obligés à un moment donné de collaborer avec eux. Mais quand certains ont dénoncé cette collaboration, les casques bleus se sont rétractés et pour que maintenant on assiste à un rapport de casques bleus de la MINUSCA contre mercenaires russes et même
Merci.
Contre l'armée centrafricaine.
Merci, M. Lakosso. Alors, M. Gorov, tout porte à croire que la communication ou bien il y a un besoin de clarté peut-être sur le statut des instructeurs et aussi de ces éléments appartenant aux agences de sécurité privées qui s'apparentent à ce qu'on appelle des mercenaires.
Écoutez, moi je pense qu'il faut quand même bien remettre le point sur les i, à savoir qu'il y a en République centrafricaine une représentation officielle du ministère russe de la Défense qui gère et qui coordonne la coopération officielle militaro-technique entre les deux pays. Il s'agit donc des contrats officiels, il s'agit de la formation des militaires et des forces de sécurité centrafricaines dans les institutions spécialisées russes, et il y a effectivement des instructeurs privés. Il est vrai que certains d'entre eux, dans le passé, ont pu appartenir aux forces armées, mais aujourd'hui, ce que je trouve assez malsain, surtout quand on entend certaines accusations, c'est de vouloir faire un parallèle entre l'armée russe et des instructeurs privés. Ça, je pense que ce n'est pas correct, parce que, mis à part les représentants officiels du ministère russe de la Défense qui se trouvent de façon officielle à Bangui, il y a effectivement des instructeurs privés, mais ils ne sont pas affiliés au ministère russe de la Défense ni aux forces armées de la Fédération de Russie de façon générale. Je pense qu'il est très important de le noter. D'autre part, ce qui me surprend un petit peu, c'est que depuis un bon moment, depuis que la Russie et la Centrafrique ont commencé activement à développer leurs relations, on essaye à chaque fois donc d'accentuer sur ces instructeurs, en voulant les attacher au gouvernement russe ou au ministère russe de la Défense. Pourtant, quand on prend d'autres exemples de sociétés militaires privées, comme par exemple l'Académie, connue sous le nom mondialement connu comme Blackwater, ou d'autres sociétés qui appartiennent à des citoyens américains, britanniques ou français, lorsqu'ils opèrent à différents endroits du monde, officiellement dans le cadre privé, y compris souvent en Afrique, Je ne vois pas ce même intérêt pour ces sociétés-là en voulant les associer aux intérêts étatiques des pays qu'ils représentent.
Avant de poursuivre vos propos, M. Egorov, juste une précision pour qu'on comprenne bien. Vous êtes en train de dire qu'il n'y a aucun lien entre ce que vous qualifiez d'instructeurs officiels qui collaborent dans un cadre formel avec les FACA et les autorités centrafricaines et ceux privés et d'autres instructeurs de ces sociétés privées qui seraient des instructeurs privés. Et alors, à ce moment, de qui dépendent-ils ?
Ils dépendent de celui qui les a employés, je veux dire. Mais quand on
l'État centrafricain, aucunement de la Russie ou de l'administration russe.
Bien sûr. Absolument, absolument. Vous savez, quand on parle de collaboration entre deux États, il ne s'agit pas seulement d'interaction interétatique. Il y a aujourd'hui, évidemment, un partenariat interétatique officiel entre le gouvernement russe et le gouvernement centrafricain, comme il y a une interaction entre le gouvernement centrafricain et des structures russes, mais qui sont privées. Je pense que c'est tout à fait normal, c'est comme ça
que ça fonctionne. Mais dans ce cas, pourquoi l'ambassadeur russe s'est senti obligé de répondre à cette enquête de la radio française lorsque celle-ci met en cause les exactions d'éléments russes et pas forcément des instructeurs? Pourquoi l'ambassade a-t-elle répondu alors?
Je pense que, ne serait-ce que pour la raison qu'il s'agit de citoyens russes, donc je pense que l'ambassadeur, quand il est sollicité pour répondre sur des faits et gestes qui sont dans son accusé des citoyens russes, je pense qu'il est assez normal qu'il puisse réagir, d'autant plus, comme je l'ai souligné tout à l'heure, on assiste constamment à ce parallèle et quand on essaie constamment de ternir l'image de cette interaction russo-centrafricaine, il est normal que le représentant officiel de la Fédération de Russie intervienne et donne son point de vue.
Merci, M. Egorov. On va venir dans la seconde partie qui va suivre dans quelques minutes, justement, à proprement parler sur ces enquêtes, quelle en est la valeur. M. Anja Landi, dites-nous, comment opèrent, combien d'instructeurs officiels compte la Centrafrique? Combien sont-ils à travailler aux côtés des FACA?
Pas grosso modo de 2000 personnes, entre 1000 et 2000 personnes qui officient aujourd'hui sur le territoire national, dans le cadre naturellement de la coopération que nous avons avec la Fédération de la Russie. Voilà.
L'ambassadeur parlait de 535 oui. hommes, c'est-à-dire des instructeurs. Vous dites 2000.
Oui, en fait, alors, mais je crois que le premier interlocuteur a très, très clairement expliqué les choses. Maintenant, il se trouve que il y a des instructeurs russes donc, qui sont dans le pays. Et en plus, si il y a d'autres forces supplétives, mais qu'on essaie d'identifier comme étant des mercenaires, je ne sais pas, etc., tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a une confusion qui s'opère, parce qu'il y a un vrai débat qui est prolongé sur le statut des forces russes. Alors, je dis les forces russes, puisque que ce soit privées ou officielles, sont des Russes. Et donc des forces russes en Centrafrique. Donc du coup, quand on regarde très globalement l'ensemble des Russes qui opèrent aujourd'hui dans le pays, c'est entre 1000 et 2000 personnes, oui, bien sûr. Et vous comprenez très bien qu'une société privée ne peut pas avoir les équipements avec lesquels les instructeurs russes, là encore, opèrent aujourd'hui dans le pays. Parce qu'on ne peut pas venir, je ne sais pas, moi, on a l'habitude de voir des mercenaires français aussi, mais dire qui opèrent avec un fusil, des équipements assez légers. Mais là, nous opérons dans le cadre d'une coopération, et donc c'est une véritable opération militaire. Donc on ne peut pas aussi penser que ce sont des mercenaires, enfin mercenaires au sens où on l'entend en Europe, bien entendu, même si cette notion-là n'existe pas en Russie, enfin pour autant... épiloguer là-dessus. Donc, je veux dire que nous sommes en Europe, on parle des mercenaires, très bien, mais me semble-t-il, au niveau de la Russie, il n'y a pas de mercenaires.
Merci.
Merci.
Merci beaucoup, M. Roger Andialandi. Nous allons poursuivre notre débat tout à l'heure en parlant justement de ce rapport, de cette enquête qui a été faite par une radio française et évoquer la valeur qu'on peut lui accorder. À tout de suite.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
De nombreuses exactions auraient été commises par des instructeurs ou agents de sécurité privée russes en Centrafrique, selon une enquête d'une radio française. Quelle valeur accorder à ces accusations et si elles sont fondées, que faire? Nous en débattons ce soir avec trois invités, Mikhaïl Gamandi-Egorov, analyste politique russe à l'agence de presse Observateur Continental. Il est au Maroc et ici en France, Roger Andjalandi, membre du parti au pouvoir en Centrafrique et délégué zone Europe, et Gervais Lakosso, coordonnateur du groupe de travail de la société civile en Centrafrique. Il est à Bangui. Alors, monsieur Lakosso, on parle là dans cette enquête d'exécution sommaire, de détention arbitraire ou encore de disparition forcée, de déplacement forcé de population civile. Côté russe, l'ambassadeur a indiqué que ce sont des fausses informations et a rejeté cette enquête. Au niveau des autorités centrafricaines, une enquête a été instruite au ministre de la Justice. Mais vous, je suppose que vous avez parcouru cette enquête. Qu'est-ce qui est vrai là-dedans et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et quelle valeur lui accordez-vous?
Justement, parlons de valeurs. Nous, au niveau de la société civile, ce qui est aussi le sentiment d'une large majorité de Centrafricains, nous n'accordons pas une grande valeur à cette information, à l'enquête de Radio France internationale, qui est d'ailleurs nous dit des choses que nous savons déjà d'une manière ou d'une autre. Et certains se demandent même de quoi se mêle Radio France internationale, puisque moi, je ne peux pas dire que non, c'est des allégations imaginaires. Non, ce n'est pas des faits imaginaires. Nous avons des organisations de la société civile qui ont documenté ces faits. Certains de ces faits sont vrais. Mais pour nous, on dit, est-ce que l'opportunité de publier cette enquête maintenant, est-il opportun que ce soit la Radio France internationale le fasse dans un contexte où il y a une rivalité entre la Russie et la France en République centrafricaine, et dans un contexte où il y a une inimitié qui s'agrandit de jour en jour entre, d'une part, le gouvernement centrafricain et le gouvernement centrafricain, et d'autre part, tout le peuple centrafricain et tout le système français. Ça veut dire que, même si ce que dit cette enquête de RFI est fondée, beaucoup de centrafricains ont tendance à le rejeter tout simplement parce que c'est RFI qui l'a fait.
Pourquoi? Parce que vous dites que cette enquête entre dans le cadre de la rivalité entre Russes et Français en Centrafrique et du coup, vous prenez ça comme si il y avait un agenda derrière.
Ne considère pas cela comme une enquête indépendante. Voilà, ce n'est pas une enquête indépendante, c'est fait par une partie.
Donc, si ça avait été un autre média, vous ne contesteriez pas?
Voilà, si ça avait un autre média, on pouvait analyser. Nous avons la possibilité de vérifier. Je viens de vous dire que tous ces faits allégués ne sont pas à rejeter. Certains sont fondés parce que nous avons, nous, au niveau de la société civile, des membres bases sur le terrain qui nous ont remonté certaines de ces informations. Beaucoup de ces informations ont été documentées aussi par les organisations de la société civile, notamment les organisations...
Monsieur Lakosso, pardonnez-moi, je voudrais bien vous comprendre. Vous dites que tout n'est pas faux dans cette enquête. Ça veut dire que certaines de ces exactions sont fondées. Vous les reconnaissez puisque vous-même vous dites les avoir documentées. Mais vous estimez que cette radio n'a pas la légitimité ou l'objectivité nécessaire pour dire ce qui est selon vous vrai, pourtant?
Absolument. Et puis aussi en matière de conflit, je ne sais pas si il faut diligenter les enquêtes sur un conflit pendant que le conflit est encore en cours. Les organisations de la société civile qui sont spécialisées sur la question, qui l'ont documenté, attendent la fin de ce conflit pour pouvoir les mettre sur la table. Parce que ce conflit, malgré ses inconvénients, a quand même aidé à soulager le peuple centrafricain, hein, parce que grâce à, au soutien de ces éléments russes, qu'ils soient mercenaires ou légaux, ils ont aidé l'armée centrafricaine à débarquer plusieurs parties du territoire des
qui ont été récupérées et qui sont désormais sous contrôle des autorités.
Voilà, qui se sont installés là, qui pillaient le pays, qui pillaient ses ressources, qui commettaient des hostilités les plus horribles sur la population, au vu et au su.
Monsieur Lacosso, permettez-moi de vous poser une dernière question avant de passer à nos invités, d'autres participants. Je voulais juste vous demander quelles sont les exactions que vous avez documentées, attribuées aux agents ou aux instructeurs russes? Puisque vous dites que vous en avez documenté.
Bien sûr, parce que il y a eu beaucoup de cas d'exécution sommaire qui peut être fait à dessein ou par le fait que ces Russes, par méfiance, puisqu'ils ne connaissent pas la différence entre qui est rebelle et qui ne l'est pas, et beaucoup de d'hommes, beaucoup de personnes de sexe masculin ont été victimes parce que il suffit que tu affiches un comportement un peu suspect et puis dû au fait qu'ils ne savent pas communiquer avec ces gens, ne parlant ni français ni sango, pour se protéger eux-mêmes, leur réaction était d'abattre simplement ces gens au niveau de la ville de Bouali. Il y a eu beaucoup de cas comme ça. À Bombari, il y en a eu beaucoup, et il y a eu le cas de la mosquée.
Donc, parce que dans l'incapacité d'interroger les gens pour en savoir plus sur leur appartenance ou non aux groupes armés, ces éléments russes tirent simplement et tuent. C'est ce que vous dites.
Voilà, il est tué. C'est ce qui s'est passé à Bouali et à Bombari aussi, et à Bombari dans la mosquée de Bombari, c'est que tout le monde sait, c'est qu'il y a eu beaucoup de civils qui étaient réfugiés dans cette mosquée, mais il y a eu des éléments de groupes armés qui sont allés rejoindre ces civils dans la mosquée, et ils ont été attaqués, et il y a eu beaucoup de civils qui ont fait les frais aussi.
Excusez-moi, monsieur Lacosso, je vous ai donné beaucoup la parole. Permettez, monsieur Adjalandi, vous êtes également au courant de ce que vient de dire monsieur Lacosso, de ces exactions documentées, connues?
Mais monsieur Lacosso se livre un peu à la confusion, parce que à la fois il dénonce le timing donc de cette enquête. Oui, et puis à la fois il essaie d'appuyer l'enquête. Je veux dire que parce que sur les éléments qui apparemment s'apparentent à ceux qui ont été révélés dans l'enquête, mais qui pour lui sont des éléments de son enquête à lui, de l'enquête de la société civile. Non, je crois que tout ça ça apparaît comme une confusion et c'est pas sérieux. Alors maintenant, je suis un peu indigné de voir, enfin citoyen simplement, parce que à un moment donné où le sur le terrain, je veux dire la concrétisation de notre diversité, donc la coopération, défense, sécurité, etc., se met en place, et à un moment donné où notre puissance, la montée en puissance de notre armée se fait sur le terrain, et on essaie là d'allumer des contre-feux pour essayer de saper, donc on va très vite à cette petite indignation qui s'apparente à une indignation sélective, on va chercher des choses dans une mosquée, mais ce sont des faits de grève, des faits de guerre. Vous êtes sur un terrain de guerre, vous poursuivez des ennemis qui rentrent dans une mosquée, vous ne pouvez pas savoir d'avance que dans cette mosquée, il y a déjà des civils, etc. Mais ce sont des faits de guerre, ça, je veux dire. Bon, je ne dis pas ça pour pardonner, mais tel que rapporté par certains ou par l'enquête sur laquelle s'appuie donc M. Lacosso. Donc, voyez-vous, tout ça n'est pas sérieux.
Mais M. Lacosso a parlé des éléments qu'eux-mêmes, ils ont documentés.
Les éléments qu'ils documentent, c'est-à-dire que factuellement, ils disent que bon, dans une mosquée, il y a déjà des civils, et puis certains rebelles se sont repliés dans cette mosquée, et donc du coup, l'armée progresse et sans distinction, essaie de tirer. Bon, ça, ce sont des faits de guerre.
Mais compte tenu du rôle que joue M. Lacosso, l'a admis, ces forces ou ces éléments ou ces instructeurs russe aux côtés des FACA et des autorités. Est-ce que le gouvernement est en mesure aujourd'hui de mener une enquête objective et indépendante sur ces exactions présumées?
Mais à partir du moment où le gouvernement s'engage donc à mener une enquête, il va falloir mener cette enquête-là. Maintenant, les conclusions, on verra très bien. Quels sont les éléments dans cette enquête-là? Ça permettra justement d'apprécier, et donc c'est serré sur la place publique. En ce moment, on appréciera de caractère sérieux, crédible, etc. de cette enquête-là. Mais pour l'instant, nous n'avons aucun élément de cette enquête-là. Donc nous attendons de voir comment les choses vont se dérouler. Et par ailleurs, je crois quand même que cette indignation se déroule dans une indifférence totale aujourd'hui de la population centrafricaine. Je m'empresse de vous le dire. Cette enquête-là, elle est aujourd'hui très éloignée de la grille de lecture de la population. La population ne lit pas les choses de cette manière-là. Alors maintenant, on essaie de dire oui, enfin...
Elle se focalise sur les résultats obtenus par ces éléments russes avec la récupération de plusieurs villes des mains des rebelles, comme Bambari.
La coopération aujourd'hui donne des résultats sur le terrain, et donc justement la rébellion essaie là de trouver des moyens de s'appuyer sur telle officine et compagnie, etc., pour allumer des contre-attaques médiatiques ou diplomatiques. Je veux dire, c'est ça aussi. Enfin, mais on verra bien. Ça, c'est sous réserve de l'enquête.
Monsieur Egorov, quand vous écoutez des propos comme ceux que Monsieur Lakosso a tenus aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les Centrafricains et la communauté internationale peuvent faire confiance à l'enquête, aux conclusions d'une enquête menée par le gouvernement centrafricain?
Personnellement, je pense absolument. Je pense qu'il faut commencer par respecter la souveraineté de la République centrafricaine, et je ne vois pas pourquoi les autorités centrafricaines ne seraient pas en mesure de mener une enquête digne de confiance, avec un rapport équitable et juste. Pourquoi on devrait faire confiance à un média étranger, d'autant plus affilié à un État, officiellement affilié à un État, qui a son propre agenda en Centrafrique. Donc je pense que cela a été...
Lequel ?
Cela a été... Celui de reprendre contrôle sur ce qu'il considère comme son précaré. Et je pense que ça ne concerne pas seulement le cas centrafricain, ça concerne beaucoup d'autres pays africains. Lorsqu'il y a un pays...
Parce que pour vous, la France a perdu le contrôle en Centrafrique au profit des Russes ?
Je pense qu'elle a perdu non seulement le contrôle, je pense qu'elle a perdu le respect de la part des citoyens centrafricains dans leur grande majorité.
D'accord. Donc, vous estimez que aujourd'hui, le bilan des Russes en Centrafrique parle de lui-même, et que quelles que soient les accusations qu'on peut formuler contre ces forces russes, elles auront toujours la confiance des populations et de la classe politique, et notamment du pouvoir centrafricain.
Je ne pense pas que les Centrafricains veuillent fermer les yeux sur des prétendues exactions, aussi, encore faut-il qu'elles soient réelles. Et moi, je suis entièrement d'accord avec le fait que le timing choisi pour émettre de telles accusations au moment des succès observés sur le terrain par les forces armées centrafricaines, les FACA, et de leurs partenaires, de ce qu'on appelle les partenaires bilatéraux, que ce soit les instructeurs russes ou les forces rwandaises. Donc, compte tenu de ces succès qui ont été observés après des années de chaos, après des années que des vastes zones de territoire étaient sous contrôle des rebelles, et aujourd'hui la situation est totalement inversée, compte tenu du fait également, et ça je trouve que c'est un manque de respect évident vis-à-vis de la souveraineté centrafricaine, compte tenu du fait que le gouvernement centrafricain n'a même pas été impliqué, n'a pas été invité à participer à ce rapport, à cette enquête, c'est d'ailleurs ce qui a été déclaré d'après ce que je sais au niveau des autorités centrafricaines, et compte tenu encore une fois du fait qu'un média comme RFI qui diffuse actuellement ces informations soit un média affilié officiellement à un État, en l'occurrence la France, qui depuis des années, on le voit bien, n'apprécie pas la dynamique observée en Centrafrique, notamment l'interaction russo-centrafricaine, compte tenu de tous ces éléments, je pense effectivement qu'il y a de très gros doutes à avoir sur l'objectivité d'une telle enquête.
Dans ce cas, si je vais dans votre analyse, pourquoi cette enquête a-t-elle été en fait maintenant, puisque vous parlez d'un problème d'agenda?
Maintenant, parce que la situation a été totalement inversée, et aujourd'hui, la popularité de l'interaction russo-centrafricaine a atteint des niveaux encore plus importants.
Donc ça peut cacher le succès russe?
Absolument, oui, pour le nuire, pour ternir la participation russe et pour ternir l'interaction russo-centrafricaine de façon générale, oui.
Merci, Monsieur Egorov. Je vous invite, messieurs, à obtenir une courte pause et on se retrouvera dans quelques instants pour la conclusion de notre débat sur des exactions supposées des éléments ou instructeurs russes en Centrafrique selon une enquête d'une radio française.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et ce soir, nous parlons de la Centrafrique, les abus qu'auraient commis éléments ou instructeurs russes dans ce pays d'Afrique centrale. Selon l'enquête d'une radio française, sont-ils fondés et quelle réponse a donné à ces allégations si finalement cela était établi? Nous en débattons ce soir avec trois invités. Roger Andialandi, membre du bureau politique du parti au pouvoir en Centrafrique, le MCU, du président Touadéra. Il est également délégué zone Europe. Mikhaïl Gamandi Egorov, analyste politique russe à l'agence de presse Observateur Continental au Maroc. Et Gervais Lakosso, coordonnateur du groupe de travail de la société civile en Centrafrique. Et je vous rappelle que nous avons sollicité deux membres de l'opposition centrafricaine, en l'occurrence Anissé Georges Dologuele et Nicolas Tiangaï, qui n'ont pas souhaité prendre part à ce débat. Et je vais m'adresser à nouveau à vous, Monsieur Lakosso. Le ministère de la Justice a donc annoncé, devait donc ouvrir une enquête sur ces allégations. Le travail a-t-il commencé? Sur quoi porte cette enquête, Monsieur Lakosso?
L'enquête porte sur le même sujet que les allégations de réfugiés. Mais avant d'aller en profondeur sur cela, j'aimerais bien préciser à l'endroit de mon compatriote Adjalanti que j'avais dit d'entrée de jeu que je n'accorde aucun crédit à l'enquête de RFI pour les trois raisons que j'ai citées. Parce que nous considérons en Centrafrique RFI pas neutre et parce que en Centrafrique, les gens n'apprécient pas tous les actes que pose Radio France Internationale en Centrafrique, et selon le timing, pour nous, ce n'est pas le moment de faire une enquête ou de publier une enquête sur des exactions, parce qu'il y a une guerre, il y a toujours des débordements. Et ce que je disais, c'est parce que vous m'en avez posé la question, ça, ce sont des informations indépendante que peut-être même...
D'accord, vous avez aussi ajouté que la Centrafrique semble voilà. Désormais être un terrain de jeu de pouvoir entre, de pouvoir d'influence et géopolitique entre Français et Russes. Ça, vous l'avez également dit, M. Lakosso. Mais aujourd'hui, si finalement il s'avérait que ces exactions étaient commises, puisque vous en avez documenté certaines, vous-même vous le dites, que doit-il se passer, si c'était le cas?
Vous me suivez bien de l'autre côté,
M. Lakosso?
Allô?
En quelques mots, s'il vous plaît, si en fin de compte ces allégations étaient fondées, quelle réponse apporter à cela si cela a été finalement établi?
Pour nous, on n'a pas encore approfondi ces enquêtes. Nous avons des informations qui ont été documentées. Il faut attendre la fin des conflits pour pouvoir les approfondir, aller interroger les éventuelles victimes pour pouvoir affirmer ou infirmer ces informations. Et si c'est le cas, les victimes doivent être indemnisées parce que c'est ce qu'on a. Dégâts collatéraux. C'est une guerre, c'est un conflit, il ne manque pas les débordements. Déjà, sur le plan de gain, le gain pour le pays dépasse peut-être les pertes. On ne connaît pas encore la profondeur des pertes, des dégâts collatéraux. Merci. Mais déjà, sur le plan général, le fait que un grand pourcentage du territoire est maintenant contrôlé par l'État, par les forces régulières, c'est un grand gain pour l'indépendance sur le plan idéologique, même des citoyens qui se sentent libres, parce qu'à un moment, les gens n'étaient plus libres.
Merci, M. Lakosso. Merci, M. Lakosso. M. Adjalandi, il ne nous reste plus que 4 petites minutes. Alors, M. Adjalandi, si finalement ces exactions étaient établies, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on fasse de ces éléments?
Non, mais je veux dire que si une enquête est engagée, c'est qu'il doit y avoir une suite, hein, une suite judiciaire. Ça me paraît relever de la logique, en fait. Mais ce que je regrette, c'est quand même que dans un moment donné où le pays est en guerre contre une rébellion, hein, depuis le 13 janvier, et que cette guerre-là produit donc des résultats sur le terrain. C'est à ce moment-là que donc la France ou alors les autres, enfin du moins la France.
Vous l'avez dit tous, Monsieur Adialandi, de même que votre compatriote Monsieur Lacosso. Et parlons justement de cette guerre. Il y a un ressortissant français qui a été arrêté avec un arsenal carrément de guerre. Oui. Certains y voient peut-être une réplique de Moscou à Paris.
Oui, vous voyez, vous, tout ça n'arrange pas aussi justement l'affaire de
la France
hein, aujourd'hui. Hein. Vous voyez, donc ça c'est très récent. On essaie de l'enquête est en cours, etc. Mais je veux dire que dans l'opinion, ça n'arrange pas les affaires, vous comprenez. Et donc ça aussi, ça risque de jouer des mauvais tours dans la coopération que nous avons avec le traditionnel, avec la France.
Mais, Monsieur Egorov, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce ressortissant français? Est-ce que vous en savez un peu plus sur l'arsenal qui a été saisi et quelles étaient ses intentions, d'après vous? Puisqu'il y a beaucoup de supputations.
Oui, pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations à ce sujet. Je suis au courant du fait qu'il y a eu effectivement cette arrestation et sur les photos qui ont circulé et qui ont été reprises par plusieurs médias internationaux, on voit que l'arsenal est effectivement impressionnant. Et cela confirme... pour moi, ça ne fait que confirmer tout le sérieux de la situation en matière des tentatives de déstabilisation. Mais en ce qui concerne les objectifs précis de ce personnage citoyen français qui a été arrêté à Bangui, je n'en sais pas plus pour le moment. Donc, je ne vais pas m'avancer là-dessus.
On a entendu le conseiller à la défense du président Touadéra énormément conseiller, communiquer sur le sujet. Est-ce que c'est une façon aussi, comme je disais, de donner la réplique à cette enquête française ? Pour montrer que la France est partie prenante dans ce conflit, la France qu'on accuse d'ailleurs de soutenir l'ancien président Bozizé, le patron de la CPC, la coalition rebelle.
Je ne sais pas si on puisse parler de réplique, mais en tout cas, je pense que les commentaires qu'il donne sont propres à son poste et aux responsabilités qu'il possède en tant que conseiller à la sécurité auprès de la présidence centrafricaine. Je pense que c'est surtout ça. Après, est-ce qu'il faut y voir une réplique aux actions françaises qui sont considérées comme des actions déstabilisatrices par beaucoup de citoyens centrafricains ?
Et de sabotage de la peut-être. Russie ?
Peut-être. Mais est-ce qu'il faut voir, je ne peux pas là aussi dire de façon ferme, parce que ça c'est une question qu'il faut peut-être poser justement à la personne qui fait ces commentaires. Mais je pense qu'effectivement, on peut le voir comme une sorte de réplique, mais c'est des répliques qu'il fait proprement dit dans le cadre du poste qu'il occupe, et son poste est celui du conseiller à la sécurité auprès de la présidence centrafricaine. Donc je pense que les commentaires qu'il fait rentrent parfaitement dans les responsabilités qui lui incombent.
Monsieur Lacosso, vraiment en quelques phrases, ce à quoi on assiste en Centrafrique aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas la conséquence de cet embargo que subit le pays, confronté à une rébellion et à une guerre qui n'est pas complètement terminée?
Oui, mais bien sûr, c'est la conséquence. Au niveau de la société civile, nous avons fait beaucoup de requêtes aux Nations Unies sur l'incompréhension ou l'inutilité de cet embargo qui est érigé contre un État alors que les groupes armés s'équipent, s'organisent librement. C'est-à-dire, nous avons dit que la République centrafricaine est dans une situation de non-assistance à un pays en danger. Mais à un moment, il faut que ce pays-là s'organise pour se défendre.
Avec les moyens de bord, y compris avec les agents de sécurité privés.
Bien sûr. Je peux vous dire que cela n'est pas blâmé par le peuple centrafricain. Mon organisation est souvent très critique envers le gouvernement. Nous, d'abord, nous n'avons pas blâmé parce qu'il nous fallait quand la maison brûle. Tu ne cherches pas la qualité de l'eau pour éteindre le feu. Ce que le gouvernement centrafricain a fait et le peuple en est satisfait.
Merci.
Les accords bilatéraux avec les Russes, avec le Rwanda, a aidé le pays à soulager le pays, à débarrasser le pays de ses bourreaux.
Merci.
Et le peuple en est content.
Merci Gervais Lacosso, coordonnateur du groupe de travail de la société civile en Centrafrique. Vous étiez à Bangui. Merci à vous Roger Adialandi, membre du parti au pouvoir en Centrafrique et délégué Zone Europe. Merci également à vous Mikhaïl Gamandi-Egorov, analyste politique russe à l'agence de presse Observateur Continental au Maroc. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.